Vous êtes en direct sur le studio Kalangou, il est 18h, bienvenue messieurs, dames. Lundi 22 juin, bonsoir à tous et voici ce qui fera l'essentiel de l'actualité. Le président du Conseil supérieur de la communication ou les membres du bureau pourront désormais sanctionner un média pour non-respect de la déontologie. Un préavis d'arrêt de travail de 6 jours à compter du 22 juin a été déposé par les enseignants de l'Union nationale des agents contractuels et fonctionnaires des enseignements professionnels et techniques. Les raisons sont évoquées dans ce journal. Explication de la sanction de l'infraction de la diffamation à l'endroit d'un groupe ethnique, une région ou les religions, c'est dans la partie magazine de cette édition. À ce micro, Diallo Mariama Kenda, une loi de 2018 confère au président et aux membres du bureau du Conseil supérieur de la communication le pouvoir de sanctionner les médias en cas de non-respect de la déontologie. Et c'est selon la gravité du manquement, a déclaré Hashimu Umaru, conseiller au CSC. C'était ce matin à Niamey, à l'ouverture de la session mensuelle. Hashimu Umaru explique au micro d'Adama Dawahi.
Dans la nouvelle loi qui a été votée là en 2018, il y a des pouvoirs élargis consacrés au président du Conseil supérieur de la communication et les membres du bureau du Conseil supérieur de la communication. Et cette disposition donc n'est pas prise en compte par le règlement intérieur du Conseil supérieur de la communication. Donc cette session va travailler là-dessus pour intégrer au règlement intérieur ces dispositions de la nouvelle loi. Le pouvoir, il est relatif par rapport au pouvoir d'urgence en cas de nécessité de diffusion d'éléments qui troublent l'ordre public, qui amènent des difficultés donc dans le pays. Le bureau peut intervenir non seulement donc pour par exemple arrêter la diffusion ou interdire la rediffusion et mieux arrêter carrément l'émission, voire la fermeture de l'organe provisoirement. Et ça, ils ont le pouvoir de le faire avant la session du CSC. Dès qu'ils le font, à la session prochaine du CSC, c'est inscrit à l'ordre du jour pour être donc statué par la plénière.
Ces trois dernières années dans la région d'Agadez, près de 600 élèves abandonnent chaque année l'école primaire à partir du cours d'initiation CI. Selon le directeur régional de l'éducation primaire, les déplacements massifs des populations dans les zones pastorales est à l'origine de ces abandons. Moutari Abarchi, directeur régional de l'éducation primaire d'Agadez, au micro de Moussa Maman.
Dans la région d'Agadez, je vous dis, sur les trois dernières années, là, nous enregistrons à peu près 600 élèves quand ils sont inscrits au CI. Ils n'arrivent pas à dépasser ce cap de CI-là pour venir au CP. Chaque année presque. Vous voyez que c'est un problème, dirais-je, régional. Les causes, elles sont vraiment diverses. Comme vous le savez, la région d'Agadez, c'est une région à vocation pastorale. La grande partie de ces élèves-là, leur abandon est dû essentiellement au déplacement des parents. Quand les parents quittent, il n'y a nulle part où il faut laisser les enfants, donc il faut simplement les amener. Et ce qui fait qu'effectivement, dans la zone rurale, essentiellement, Ifeuruan, Timiya, Dabaga, Tabelot, Adarbisenet également, dans sa zone pastorale, le problème vraiment, il est de mise.
Un préavis de grève de 6 jours à compter de ce 22 juin a été déposé par les enseignants de l'Union nationale des agents contractuels et fonctionnaires des enseignements professionnels et techniques. Selon le secrétaire chargé de l'information de la structure, ce préavis comporte 6 points, dont le recrutement sans concours à la fonction publique de leurs militants. Maman Salissou Aruna, joint au téléphone par Rukayatou Abdourahmane.
Et puis la reprise des activités pré-confinement. Nous avons tenté de faire des dialogues avec les autorités compétentes afin de sauver les restants des 45 jours que le gouvernement pendant lequel compte finir le programme. Mais dans cette situation, nous avons remarqué quelques difficultés que nos camarades rencontrent, où nous avons énuméré un certain nombre de points où nous avons déposé un préavis de grève sur lequel les 6 points sont énumérés, qui concerne l'ouverture des recrutements sans concours à la fonction publique au titre des années 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019. Le retrait systématique des Niger Post de nos camarades et le laisser choisir l'institution financière pour domicilier son équipe. La régularisation des indemnités des responsabilités coupées et leur remboursement.
Le 20 juin, le monde a célébré la Journée mondiale des réfugiés, JMR. Pour cette année, elle est placée sous le thème « Chacun peut agir, chaque geste compte ». Notre correspondant Agadez Anissé Karim a recueilli les avis des réfugiés vivant dans cette ville sur cette journée et leurs attentes. Écoutons leurs réactions.
En tant que réfugiés, nous sommes fiers de cette journée et que l'humanitaire nous assiste comme elle a l'habitude de le faire. Nos doléances vont d'abord au gouvernement de la République de Niger. C'est lui qui va nous donner le statut de réfugié, plus le HCR. Donc nous leur prions de continuer à nous assister et d'améliorer encore les conditions dans lesquelles nous sommes, puisque nous connaissons tous ensemble les problèmes auxquels le monde est confronté actuellement. Je parle évidemment de la Covid-19. De vraiment penser à nous, puisque nous avons laissé nos pays respectifs, faute d'insécurité pour certains d'entre nous.
On appelle aussi à la population d'Agadez à bien vouloir nous accepter. Nous sommes les frères, nous sommes les sœurs et nous sommes appelés à vivre ensemble. Mais Alanda aussi, l'État nigérien, de faire tout pour que nous ayons le statut dans le délai. Car nous avons des familles, nous ne pouvons pas rester très longtemps. Vraiment, on demande aussi que les conditions de vie soient améliorées là-bas sur le site.
À l'occasion de cette journée mondiale des réfugiés, l'ambassade des États-Unis au Niger, dans un communiqué de presse le 19 juin, a rendu hommage au Niger pour avoir recueilli plus de 230 000 personnes fuyant des conflits le long des frontières, évacuées de Libye, expulsées d'Algérie ou cherchant refuge ailleurs. Cette journée attire aussi l'attention sur le sort de plus de 25,5 millions de réfugiés et demandeurs d'asile dans le monde, selon le même communiqué de presse de l'ambassade des États-Unis au Niger. À la date du 21 juin 2020, le communiqué du ministère nigérien de la Santé fait état d'un nouveau cas positif de coronavirus COVID-19 enregistré sur 113 tests réalisés. À ce jour, sur 6170 patients testés, 1036 sont déclarés positifs au COVID-19, parmi lesquels on compte 67 décès, 911 guéris et 58 en cours de traitement. Le curage des caniveaux et la lutte antivectorielle sont les deux axes au programme cette année de la ville de Maradi pour lutter efficacement contre le paludisme en ce début de saison des pluies qui rime avec le retour des moustiques et donc du paludisme. Ibrahim Miko, le président de la délégation spéciale de Maradi, explique au micro de Mohamed Maman.
On a approché de cette année, curage de caniveaux sur l'ensemble du territoire de la ville pour un montant d'un peu moins de 40 millions. C'est en cours, c'est presque à la phase terminale en termes d'activité. Le deuxième axe, c'est l'activité de lutte antivectorielle. Donc, nous avons décidé d'acquérir des matériels de pulvérisation. Déjà là, on a 4 appareils qu'on a acquis pour la réalisation de cette activité. À cela s'ajoute naturellement des appareils que nous avons, donc une dizaine. Et naturellement, le produit est destiné à cette lutte-là. On a actuellement 3 tonneaux, plus les autres liquides qui accompagnent. Et il y a un reliquat de 7 tonneaux de produits qui vont bientôt arriver.
Le Conseil des ministres du vendredi à Niamey a adopté une innovation sur le rehaussement de l'âge de la retraite de 60 à 65 ans pour certaines catégories du personnel des universités publiques du Niger. Cette disposition concerne les maîtres assistants, les chargés de recherche, les assistants et les attachés de recherche. La fête de la musique, c'était hier dimanche 21 juin. Fatimata Ahmed Elher est la première et unique femme guitariste de la région d'Agadez. Elle joue cet instrument depuis plus de 15 ans. Fatimata Ahmed Elher vient de Gofat, un petit village situé à 17 km d'Agadez. En 2017, elle rejoint le collectif des filles d'Innegadak. Elle fait la fierté du Niger sur la scène internationale. Jointe au téléphone ce matin par le studio Kalangou, Fatimata Ahmed Elher nous parle de ses débuts.
J'ai eu l'occasion d'avoir une guitare. J'ai appris ça tout seul, vraiment. J'étais seul à Ambrose, j'ai abandonné l'école comme ça. J'étais à la maison seulement, je fais rien. Là où je suis, j'étais surtout de l'Ambrose. Il y a même des gens qui me rendent visite pour voir comment je joue, comment j'ai appris à jouer la guitare. C'est un plaisir.
À partir de quelle année vous êtes devenu populaire? Vous êtes connu plus à l'international qu'au Niger même?
On a commencé à faire des tournées internationales avec les amis des groupes. Les filles des Ligues, depuis 2017, je ressens un grand bonheur une fierté d'être une des seules femmes qui joue à la guitare. C'est une fierté pour moi d'honorer mon pays.
Salut frérot, comment tu vas?
Ouais man, je vais bien, Dieu merci, et toi?
Oh, ça crache, le réseau n'est pas bon.
Bah pourtant, je te reçois bien.
Ah, c'est bien, donc, et les activités?
Parler d'activités en ce moment, c'est difficile, tu sais. Mon oncle qui est de retour du voyage là, apparemment, lui, il va pas bien. Hein?
Ah oui? Comment tu as réussi à savoir?
Il tousse, il a le corps chaud, des problèmes de respiration, vraiment que des symptômes bizarres.
Mon frère, voici les conseils que je te donne. Il ne faut pas sortir de chez vous. Il ne faut pas non plus donner l'occasion aux autres de venir chez vous. Il faut surtout appeler le 15. À la minute près, une équipe sera chez vous pour prendre votre oncle en charge et diagnostiquer l'état de santé de toute la famille. Ne néglige pas. Il faut isoler votre oncle et chercher aussi les bavettes pour qu'il couvre sa bouche et son nez.
Mais pourquoi tout ce protocole?
Tu sais pas, il y a un virus qui circule partout. Hein. Personne n'est épargné. Je veux parler du coronavirus.
Subhanallah, la situation est sérieuse. Dès que je raccroche, je vais informer toute ma famille et appeler rapidement le 15.
Il ne faut pas oublier toutes les personnes qui étaient en contact avec lui.
Merci beaucoup, man.
Ceci est un message du studio Kalangou en collaboration avec le ministère de la Santé publique du Niger.
La partie magazine de ce journal à présent, les auteurs des articles qui portent atteinte à un groupe ethnique, une région ou une religion seront condamnés à payer une amende de 100 à 150 000 francs CFA lorsque la publication a pour but d'inciter les citoyens à la haine, lorsque l'injure envers les particuliers n'a pas été précédée de provocation. L'amende prévue est de 100 à 500 000 francs CFA. Les mêmes dispositions sont prévues à l'encontre des auteurs de diffamation contre la mémoire des morts, des infractions amnistiées et ou prescrites. Plus de précisions avec Madame Goji Memouna Gazibo au micro de Belkissa Amidou.
Dans quel cas une diffamation peut porter atteinte à un groupe de personnes, à une région ou une religion, etc.?
Lorsque l'article porte atteinte à une région, à une religion, à une ethnie, vous pouvez par exemple cibler Diffa ou Tilaberi, cibler l'islam ou le christianisme. Lorsque cette publication a pour but d'inciter à la haine entre les citoyens, l'amende prévue est de 100 000 à 150 000 francs. Lorsque l'injure envers les particuliers n'a pas été précédé de provocation, l'amende prévue est de 100 000 à 500 000 francs CFA. Parce qu'on peut juste écrire sans avoir provoqué quoi que ce soit. Les mêmes dispositions sont applicables aux diffamations et injures contre la mémoire des morts. Un chef d'État meurt, un ministre meurt, vous faites une publication qui porte atteinte à l'honneur de ses héritiers. Ils peuvent porter plainte contre vous et vous serez également condamné à verser les mêmes montants précités. Les héritiers peuvent se constituer par et demander des réparations pour le préjudice moral subi.
Quelles sont les amendes prévues pour les journalistes qui écrivent sur des infractions amnistiées ou prescrites?
Des infractions peuvent intervenir, mais que ces infractions soient amnistiées ou prescrites. Par exemple, c'est quoi la prescription? Vous commettez une infraction, un délit, pendant 3 ans, le procureur n'a rien fait, l'infraction est prescrite. Par exemple, quand un commerçant est poursuivi pour détournement de deniers publics, à partir du moment où il meurt, l'action s'éteint. Dans ces situations, vous faites quand même une publication portée atteinte à la personne, cela est considéré comme un délit de diffamation et va vous être appliqué les mêmes amendes. Toute reproduction ou imputation qui a été jugée diffamatoire est réputée faite de mauvaise foi, sauf preuve contraire par son auteur. On considère que lorsque vous faites une publication qui porte atteinte à l'honneur d'une personne, vous êtes de mauvaise foi. Chose extrêmement importante en matière de délit de presse, la détention préventive est interdite. Le juge ne peut décerner ni un mandat de dépôt ni un mandat d'arrêt. Et si vous remarquez, le délit par voie de presse est l'une des rares infractions pour lesquelles l'État demande une amende allant jusqu'à 2 500 000. Parce qu'on estime que pour préserver la liberté de presse, il faut atteindre l'auteur de l'infraction dans son patrimoine. Ils vont prendre conscience de la mesure et de la gravité des faits.
Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Tout de suite, place au forum de Studio Kalangou. Comment intégrer le manioc dans les pratiques agricoles et alimentaires des Nigériens? C'est le thème de ce soir. Présentation, Mokhtar Amadou.